Le journal Loïc Barrière. Deux Palestiniens tués par les forces israéliennes à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Les opérations militaires se multiplient dans un contexte de campagne électorale en Israël. Nous écouterons l'analyse de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. De nouvelles manifestations ce vendredi contre le pouvoir en Iran. La lutte contre l'immigration illégale au centre du premier entretien téléphonique entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron. SOS Méditerranée appelle Malte et l'Italie à autoriser le débarquement de 234 migrants qui se trouvent à bord de l'Ocean Viking. Entretien avec le président de l'ONG François Thomas. Enfin, à un mois du Téléthon, nous ferons le point sur les maladies neuromusculaires qui touchent en particulier les enfants avec un médecin, le docteur John Andoni Urtiz-Berea. Deux Palestiniens tués ce vendredi matin par les forces israéliennes dans le secteur de Naplouse, ville où un nouveau groupe armé palestinien s'est récemment constitué. Cette journée de vendredi a été marquée par de nouvelles manifestations pour dénoncer l'occupation. Les opérations militaires israéliennes se multiplient à Naplouse dans un contexte de campagne électorale en Israël. Je vous propose d'écouter Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité.
Oui, il y a évidemment la bataille pour les élections de législatives. Ça, c'est un aspect de l'attitude de la direction israélienne. Et puis, il y a en même temps la volonté d'aller toujours plus loin dans la colonisation, dans l'occupation du territoire et dans le fait qu'on veut faire taire toute voix qui réclamerait la libération nationale. On prétexte que c'est un groupe armé, violent, certes, mais dans un pays où on n'écoute rien, où on impose l'occupation, où on bafoue le droit international, il ne faut pas s'étonner qu'un jour il y ait des gens qui s'arment. Malheureusement, c'est ainsi. Ce sont des formes de résistance assez dures, assez violentes, qui pour moi n'aident pas le combat de libération nationale. Mais d'un autre côté, c'est des gens qui agissent dos au mur.
Est-ce que Naplouse est en train de se transformer en bande de Gaza ?
Bon, je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, ce qui est en train de se passer dans l'ensemble de la Palestine, c'est une stratégie d'isolement, de compartimentement d'un certain nombre de lieux, de régions, notamment avec la coupure maintenant quasi achevée de Jérusalem, du reste du territoire. On est en train de produire, on peut appeler ça un peu partout, des petits Gaza, c'est-à-dire des populations qui seront cantonnées dans un certain nombre de lieux dont ils ne pourront plus sortir puisqu'il n'y a pas la libre circulation à l'intérieur même de leur pays.
Alors cette semaine, cinq anciens ministres européens des Affaires étrangères ont dénoncé l'apartheid pratiqué par Israël. Ils écrivent que la communauté internationale a trop souvent gardé le silence et n'a pas agi face à de graves violations du droit international. C'est la première fois que des responsables de ce rang s'expriment ainsi sur le conflit au Proche-Orient. Comment expliquez-vous cette prise de position ?
D'abord, il faut dire que c'est une très bonne nouvelle, ça conforte le combat des démocrates, des progressistes, des forces de libération nationale qui réclament la reconnaissance d'un État palestinien. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a quand même tous les ans, bien souvent, le rapport des ambassadeurs de l'Union européenne qui nous sont donnés au Parlement européen et à la Commission européenne, qui également, chaque année, relève un certain nombre de faits tout à fait contraires au droit international et qui montrent comment l'occupant grignote peu à peu le territoire et emprisonne les populations. Et donc, je salue ce texte des ministres des Affaires étrangères. Il resterait que maintenant, que quand on est en fonction, on fasse ce qu'il faut faire.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, la question palestinienne sera à l'ordre du jour du sommet arabe prévu le 1er novembre à Alger, c'est ce qu'ont indiqué les autorités algériennes. De nouvelles manifestations ce vendredi en Iran. Les protestataires dénoncent la mort de manifestants tués par les forces de l'ordre. Le mouvement de contestation a été déclenché par la mort de Mahsa Amini il y a 6 semaines. Mais la colère a redoublé avec la mort de nombreux manifestants à travers le pays. Ce vendredi, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants à Zaïdan. Au Liban, un décès dû au choléra, 22 autres personnes contaminées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total des décès liés au choléra à 15 et celui des contaminations à 368 depuis le 5 octobre. Un premier entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak. À cette occasion, ils ont convenu de renforcer leur coopération pour lutter contre les traversées de migrants. Le responsable britannique souhaite rendre la route de la Manche totalement impraticable pour les trafiquants d'êtres humains. 234 migrants qui se trouvent à bord de l'Ocean Viking attendent d'être débarqués. SOS Méditerranée a appelé Malte et l'Italie à autoriser ce débarquement. L'Italie, où la nouvelle première ministre d'extrême droite a fait campagne contre l'immigration. On écoute François Thomas, le président de SOS Méditerranée.
234 personnes ont été sauvées en 6 opérations de sauvetage. En quelques jours, ce sont toujours des sauvetages compliqués d'embarcations en détresse, d'embarcations en bois ou embarcations pneumatiques. Le dernier sauvetage a eu lieu hier. L'embarcation avait été repérée par un avion de l'OTAN qui a demandé à nos équipes d'intervenir. Et aujourd'hui, nous avons donc à bord 234 personnes, 56 mineurs. Il y a 4 enfants en bas âge de moins de 4 ans, 14 femmes. Certains ont passé plus de 3 jours en mer sans nourriture, ils sont épuisés et ils ont souffert beaucoup de leur séjour en Libye. Et il est urgent que nous puissions avoir un lieu sûr de débarquement conformément au droit maritime. Nous avons fait le job, sauver les personnes en détresse, comme tout capitaine de navire a le devoir de le faire. Et nous attendons des États qui fassent ce travail aussi, parce qu'ils ont un devoir d'indiquer un lieu sûr de débarquement le plus rapidement possible pour que ces personnes soient débarquées dans un lieu sûr.
Le port le plus proche se trouve en Italie. Il y a eu un changement politique dans ce pays. Qu'est-ce que vous attendez des autorités italiennes ?
Nous attendons des autorités italiennes qu'elles respectent le droit maritime. C'est-à-dire que, d'ailleurs, certains sauvetages ont eu lieu dans la zone de recherche et de sauvetage sous responsabilité maltaise. Donc que les autorités maltaises, les autorités italiennes, nous indiquent un lieu sûr pour débarquer ces personnes le plus rapidement possible, parce que nous ne pouvons pas les débarquer en Libye, qui n'est pas un lieu sûr de débarquement. Et donc, il est urgent que les autorités italiennes nous répondent à nos demandes de port sûr de débarquement. Il y a déjà eu 6 demandes de fait aux autorités maltaises, aux autorités italiennes. Nous attendons une réponse, parce que cette incertitude est insupportable, principalement pour les personnes rescapées, qui ont déjà passé trop de jours à bord, en mer, et qui ont beaucoup, beaucoup souffert en Libye.
Vous êtes inquiet des récentes déclarations du nouveau ministre italien de l'Intérieur qui a dit que l'Italie pourrait ne plus accueillir d'exilés.
Nous n'avons pas été notifiés officiellement de ce refus des autorités italiennes. Nous l'avons entendu dans la presse et nous rappelons le devoir de chaque État, des autorités italiennes. C'est plus qu'un devoir, c'est une obligation légale également, puisque les conventions internationales, le droit de la mer impose aux États de donner un lieu sûr de débarquement aux navires qui ont effectué des sauvetages, qui ont répondu à des appels de détresse. Donc il faut que les autorités italiennes respectent ce droit de la mer afin de soulager la souffrance de ces personnes.
François Thomas, président de SOS Méditerranée. Le Téléthon aura lieu le premier week-end de décembre, l'occasion de faire le point sur les thérapies en France. On écoute John Andoni Urtiz-Berea, spécialiste des maladies neuromusculaires. Ce médecin travaille en France, mais aussi dans plusieurs pays méditerranéens, notamment au Liban. On l'écoute.
D'abord, il faut rappeler que ce sont des maladies qui sont invalidantes pour la plupart d'entre elles, qui touchent surtout les enfants, mais également les adultes. Et pour lequel on se bat déjà depuis plus de 30 ans pour essayer de faire avancer les choses à la fois sur le plan scientifique, ça c'est la découverte des gènes responsables de ces maladies, car elles sont pour la plupart héréditaires, et d'autre part, les moyens d'améliorer le quotidien, la prise en charge des patients sur le plan médical, mais aussi chirurgical. Alors tout ça, effectivement, a fait beaucoup de progrès, entre autres parce qu'il y a le Téléthon et parce qu'il y a eu des financements importants destinés à ces recherches. Et puis tout ça s'est emballé depuis maintenant 5-6 ans avec l'arrivée de nouveaux médicaments qui reposent en grande partie sur ce qu'on appelle la thérapie génique, qui consiste à remplacer les gènes défectueux par des gènes sains et qui donne des résultats remarquables sur au moins un petit groupe de ces maladies neuromusculaires, particulièrement chez l'enfant.
Il y a pour vous des motifs d'espoir ?
Alors, c'est non seulement de l'espoir, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que déjà actuellement, on peut traiter, à condition de faire les diagnostics très précocement, et de rendre la vie quasiment normale pour un certain nombre de ces enfants. Donc ça, c'est déjà le fruit de toutes les recherches depuis des décennies. Et puis l'espoir, c'est qu'effectivement, on puisse étendre cette thérapie innovante à beaucoup d'autres de ces maladies neuromusculaires, mais également pour les autres maladies génétiques en général.
Vous parlez de diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'il faut regarder chez un enfant dont on soupçonne éventuellement une maladie neuromusculaire ?
Les signes d'appel sont assez variés, mais en règle générale, chez les petits, en tout cas, chez les petits-enfants, ce qui attire l'attention, c'est quand un enfant qui s'est jusque-là développé normalement devient, en quelques semaines ou quelques mois, très, ce qu'on appelle paralytique, c'est-à-dire qu'il commence à devenir hypotonique, manque de tonus. S'il avait déjà acquis la marche, il est à ce moment-là plus difficile pour lui de marcher, de monter les escaliers. Les médecins généralistes et les pédiatres devraient avoir effectivement l'attention attirée par des petits signes comme ça, qui ensuite les fait orienter vers des spécialistes, donc ce qu'on appelle des neuropédiatres, qui eux-mêmes connaissent bien ces maladies neuromusculaires et font les diagnostics très rapidement.
Et il faut aussi que les parents fassent des tests ADN ?
Alors après, quand on parle de tests ADN, on rentre déjà donc dans le monde de la génétique. C'est un peu particulier parce que il faut d'abord faire le diagnostic chez l'enfant, et c'est chez lui qu'on va d'abord faire ces tests génétiques pour confirmer l'origine exacte de la maladie. Et puis ensuite, effectivement, on fait une enquête familiale, c'est-à-dire que on essaie de déterminer si un ou deux des parents sont porteurs de la maladie, mais alors porteurs sains, puisqu'ils ne développent pas de symptômes. Et puis ensuite, ça peut être pour le reste de la famille, et notamment quand il y a des frères et sœurs, ou des cousins, ou des choses comme ça. Et encore plus, si c'est dans une famille où il y a des liens de consanguinité, anciens ou plus récents, à ce moment-là, effectivement, il faut tester les gens et tester leur ADN, pour cette maladie en particulier.
Quand les gens sont testés de manière positive sur ces maladies, qu'est-ce que vous leur conseillez quand ils veulent avoir un enfant ?
Alors, on leur conseille surtout de voir un généticien clinicien, donc c'est un médecin, c'est son métier, et qui va apprécier, donc au vu des informations qui vont être fournies par la famille. Donc, les tests génétiques s'adressent d'une part à la personne elle-même, quand elle est concernée dans sa famille par une maladie génétique. On peut estimer chez elle le risque de développer ou non la maladie en question. Chez les adultes, c'est relativement exceptionnel. En revanche, on peut estimer pour sa descendance, si elle se marie, qu'elle a des enfants, et d'estimer à chaque fois quel est le risque d'avoir un enfant atteint et de faire un diagnostic prénatal à ce moment-là. Alors, à côté de ça, ce qui se développe de plus en plus maintenant, ce sont des tests donc de dépistage à la naissance d'un certain nombre de maladies. Et actuellement, justement, pour une de ces maladies neuromusculaires, c'est tout nouveau, puisque ça va se mettre en place là dans quelques mois, à titre expérimental. On pourra déterminer si les enfants à la naissance, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, sont effectivement à risque de développer cette maladie. On pourra les traiter avant que les symptômes débutent. Et de par l'expérience de nos collègues dans d'autres pays, tout ça aboutit à ce que ces enfants se développent normalement, comme tous les autres enfants.
Qu'en est-il de la prise en charge des personnes atteintes de ces maladies dans le bassin méditerranéen ?
Alors, dans le bassin méditerranéen, alors si on inclut la France, et on a raison de le faire, on est plutôt exemplaire puisqu'on a des centres de référence, des centres de compétences, des équipes de médecins, des travailleurs sociaux, etc. Tout ça est bien organisé, bien financé. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de trou dans la raquette et ça se passe très très bien. Quand on regarde effectivement le paysage un peu plus de façon un peu plus lointaine, je pense notamment à mes collègues et amis du Maghreb, mais aussi au Moyen-Orient où je vais souvent, là on se heurte à des difficultés à la fois d'organisation, puisqu'il n'y a pas toujours suffisamment de spécialistes pour faire les diagnostics et suivre ces enfants ou ces adultes, et puis un problème de coût, tout simplement pour faire ces tests génétiques, parce que tout ça a bien évidemment des conséquences financières. Et je ne parle pas du Liban où je continue à consulter régulièrement, où là, en revanche, c'est même au niveau de la population elle-même où il y a plus grand-chose. Et effectivement, c'est très, très difficile d'organiser des prises en charge. Mais je connais beaucoup de gens qui s'y attellent encore dans des conditions très, très difficiles. Et ça, c'est plutôt encourageant.
Et donc, il y a une possibilité parfois de faire venir ces enfants en France ?
Alors, c'est une question qui pose problème. Alors, pas uniquement pour les histoires de visa et d'autorisation administrative, mais simplement sur le bénéfice vraiment qu'on peut apporter en faisant venir des enfants. Alors pour des opérations relativement simples, j'allais dire chirurgicales, etc., bon, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur place, donc il n'y a pas besoin de transférer les enfants. En revanche, quand on bute sur certains diagnostics, ou pour certains traitements très 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 particuliers, ou pour des essais cliniques simplement, c'est-à-dire des études expérimentales, on peut être amené effectivement à faire ces transferts. Mais de façon générale, je préfère, en tout cas personnellement, aller plutôt sur place, former mes collègues et voir des enfants, bien sûr, et des adultes en consultation, et voir avec eux que ce qu'on peut faire déjà sur place, et quand vraiment on arrive dans une impasse, effectivement d'envisager un transfert.
Le docteur John Andoni Ortiz Berea. L'augmentation du prix de la baguette est inévitable, c'est ce qu'affirme la Confédération de la boulangerie. Selon elle, le dispositif d'aide annoncé par l'État pour réduire le prix de l'énergie ne sera pas suffisant. Enfin, n'oubliez pas le changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le traditionnel passage à l'heure d'hiver. À 3h du matin dimanche, il sera 2h. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Yanis Bacha, membre de Renaissance, ancien candidat de la majorité présidentielle aux élections législatives à Paris. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.